Mon nom est Anouk Millet et je suis au téléphone avec Pierre-Yves Sérinet, porte-parole du Réseau québécois sur l'intégration continentale. Il vient nous parler de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne et de la manifestation du 20 avril à Montréal. Bonjour Pierre-Yves, merci d'être là.
Oui, bonjour, comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Ça va très bien, moi aussi, pardon.
Pas de souci. Pour commencer, je voudrais vous demander de parler un peu plus de l'accord du libre-échange que le Premier ministre Philippe Couillard souhaite ratifier.
Oui, ben en fait, on sera en action donc ce lundi. On l'aura été lorsque... Bon, ce sera diffusé, c'est un peu niaiseux, excusez-moi. Mais en fait, on est en action, on est en mouvement depuis plusieurs années sur le libre-échange. En fait, le Réseau québécois sur l'intégration continentale est une coalition multisectorielle de différents secteurs sociaux québécois. Grosso modo, là, on représente... plus d'un million d'affiliés par les différents membres syndicaux, communautaires, populaires, mouvements des femmes, mouvements étudiants et autres, qui s'intéressent donc aux enjeux de libre-échange depuis les années 80. Et le gouvernement fédéral qui négocie ces accords lie nécessairement les provinces. Dans le cas qui nous intéresse, le Québec, par une succession de gouvernements, c'est toujours... a toujours tâché là, de nous associer à un modèle de libre-échange, donc de libéralisation des échanges, mais qui aussi touche d'autres choses que du commerce. C'est pas seulement des accords qui touchent les tarifs, mais de plus en plus, puis c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on parle d'accords de nouvelle génération, on met sous la logique du libre-marché d'autres choses que seulement des enjeux commerciaux. On met aussi les services publics, le développement local. On crée des conditions favorables pour les entreprises multinationales pour investir ici chez nous, mais surtout prendre possession de nos ressources, nos services publics et autres. Il y a des accords en cours à l'heure actuellement. Un qui a fait un peu plus la manchette récemment, celui de l'accord entre le Canada et l'Union européenne, sur lequel nous, on combat, on essaie de sensibiliser le plus largement possible, d'organiser des actions, des coups d'éclat, mais il y a aussi des accords autres qui sont encore plus négociés, encore plus clandestinement en secret, notamment l'accord qu'on appelle le partenariat transpacifique, là, qui lie 12 pays qui touche donc l'océan Pacifique, là, donc l'Asie Pacifique et le Canada, les États-Unis. Un accord qui va être assez important au niveau agricole, mais aussi au niveau de l'accès universel aux médicaments. Et un troisième accord aussi qui est en cours de négociation en marge de l'Organisation mondiale du commerce, qui est l'accord sur le commerce des services. Donc, c'est trois accords sur lesquels nous, on planche, en particulier avec l'Union européenne, qui est celui qu'on a réussi à le plus situer dans l'agenda public. Et lundi, donc, on agit envers le gouvernement Couillard, qui est particulièrement actif. C'est un héritage de Jean Charest, d'ailleurs, qu'a relayé le Parti québécois, le gouvernement précédent. Et donc, on essaie de contrer le processus de ratification. Apparemment, la négociation est conclue, mais il reste encore plein d'éléments de litige. Et surtout, ici au Québec, on n'a pas eu de débat public, donc on ne peut pas accepter que cet accord-là soit ratifié en catimini, à la va-vite, quoi.
Oui. Quelle était la réaction au Québec à l'annonce de la ratification et des non-débats, on va dire, contre cet accord?
Quelle est la réaction au Québec, vous dites? Ben, en fait, ce qui est particulier, c'est que ces accords de libre-échange, dont celui avec l'Union européenne, se sont négociés dans le cas de l'AECG, qu'on appelle, avec l'Union européenne, depuis 2009, de façon secrète, clandestine, sans consultation publique, en tout cas certainement pas des secteurs sociaux que nous, RQC, on regroupe. On sait très bien que le milieu des affaires est consulté de façon étroite. À la limite même, ce qui est intéressant de noter, c'est que ces accords de libre-échange créent vraiment ce que nous, on appelle une constitution supranationale, essentiellement pour favoriser les intérêts privés du monde des affaires et en particulier les intérêts des grandes multinationales. On crée dans ces accords-là les conditions pour leur protéger des droits. Puis je dis bien droits des entreprises, en guillemets, parce que nous, évidemment, on est défenseurs des droits des populations, droits humains, économiques, sociaux et culturels, mais ces accords vont carrément à l'encontre, piétinent ces droits pour privilégier et mettre de l'avant des mesures carrément disproportionnées pour protéger le droit de faire des profits. Alors là, on parle de droits d'investir dans les services de santé, des droits pour les entreprises au niveau environnemental. Et lorsque un gouvernement met de l'avant une politique publique qui supposément viendrait restreindre leurs attentes, entre guillemets, légitimes de profit, ben ces entreprises peuvent poursuivre l'État. Et on ne fabule pas là ici. Là. En ce moment, en vertu de l'ALENA, donc l'accord nord-américain qui est en vigueur depuis 1994, déjà le Canada a été poursuivi 36 fois. Le Québec l'a été aussi par ricochet. Et on fait face à l'heure actuelle à une poursuite là, de 250 millions de dollars par une entreprise soi-disant américaine qui est incorporée dans un paradis fiscal aux États-Unis, au Delaware. Il poursuit le Québec pour la politique de moratoire sur les gaz de schiste. Pour un montant significatif, alors quand nous, on parle de lutte au déficit, de nous serrer la ceinture, et que de l'autre côté, on crée des conditions essentiellement pour des intérêts privés de multinationales de surcroît, où on verserait, nous, contribuables, des dédommagements par des politiques que nous, on considère légitimes là, au niveau environnemental. On parle de cette politique là de moratoire sur les gaz de schiste. Et alors là, on verserait des compensations pour des montants significatifs, alors que de l'autre côté, on nous demande, avec des budgets d'austérité, de couper dans les services publics. On trouve ça inacceptable. Et on voit qu'il y a aussi un vase communicant entre ces politiques nationales ici, sur le territoire québécois, et les accords de libre-échange. Donc, on le dénonce fortement.
Très bien. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de la Journée mondiale contre les traités de libre-échange et d'investissement du 18 avril?
Oui, ben depuis longtemps, je crois que c'est du jamais vu. En fait, depuis, moi, ça fait déjà une vingtaine d'années que je milite là au sein de cette mouvance mondiale. Et on se souviendra très bien là, des grands mouvements contre la mondialisation néolibérale de la fin des années 90. On parle de Seattle, on parle de la lutte contre l'OMC, mais aussi contre l'accord multilatéral sur les investissements à la fin des années 90. Donc, une mouvance mondiale importante. Et face à ces victoires, il faudrait rappeler aussi la victoire qu'on a eue, les mouvements sociaux dans les Amériques, face à la zone de libre-échange des Amériques. Oui. Ceux qui sont un peu plus vieux se rappelleront des grandes mobilisations à Québec en avril 2001, où s'en rappelleront même avec des souvenirs de gaz lacrymogène. C'était une mobilisation importante au Québec. On a freiné ce grand projet. Donc, un front commun de lutte de mouvements sociaux. Et par la suite, le modèle s'est ajusté. Les promoteurs du libre-échange, ils sont allés à la pièce. Donc, le mouvement s'est fragmenté un peu. Mais à l'heure actuelle, je pourrais vous dire qu'on est vraiment dans un contexte de momentum d'articulation des mouvements sociaux, vraiment à l'agenda public. On remet les enjeux du libre-échange, la mondialisation. On commence à faire les liens aussi avec la vie quotidienne de ce qu'on vit en termes de qualité d'accès aux services, de qualité d'emploi, etc., avec ce qui se passe globalement. Donc, il y a une mouvance mondiale, un momentum qui est en train de se construire, ce qui a donné lieu, justement, vous en parliez, à la Journée mondiale d'action qui va se développer principalement demain, le 18 avril, avec plus de 700 actions sur les 5 continents, en fait, pour contester, pour s'opposer à ce modèle économique qui fonctionne pas pour la majorité, mais essentiellement pour les intérêts du 1% dont on parle. Et donc, 700 actions en Europe, il y en a presque 100 aux États-Unis, en Amérique du Nord, quelques dizaines en Amérique latine, en Asie, quelques-unes en Afrique aussi, un mouvement donc qui prend de la force et qui veut carrément renverser ces accords de libre-échange qui sont en cours de négociation, mais aussi ceux qui sont déjà sur pied et dont on voit les impacts. Nous aussi, on voit les impacts là, de 25 ans de libre-échange en Amérique du Nord, au Canada, au Québec, et on pense que c'est un modèle qui ne fonctionne pas. Il faut repenser un nouveau paradigme, remettre l'économie au service des gens, assurer aussi une synergie entre le modèle économique et les besoins criants de protéger l'environnement. Mm-hmm. C'est vraiment notre survie finalement qui est à l'agenda dans ça. Donc, il y a un mouvement qui s'exprime demain ponctuellement lors des Journées mondiales d'action qui s'étendent, oui, le 18 avril, mais aussi, comme dans notre cas, des actions qui ont déjà eu lieu, qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Donc, pour nous, ce sera lundi, donc le 20 avril, pour faire face à la position déjà à peine voilée du premier ministre Couillard, qui, pour lui, c'est le libre marché, c'est la façon de créer de la richesse, c'est la façon de créer de la prospérité. Et nous, on trouve ça excessivement dangereux, surtout quand ça se combine avec ces politiques d'austérité actuelles.
Justement, pourquoi est-ce que vous avez choisi le 20 avril pour une manifestation à Montréal?
On a choisi lundi le 20 avril parce que, vous le savez, ici au Québec, on est sur le pied de lutte là, depuis plusieurs semaines. Oui. Donc, il fallait vraiment accorder, disons, les différentes mobilisations qui sont en cours, étudiantes, syndicales et autres, à la réalité, donc, de mobilisation. Mais, il fallait trouver une façon de construire, finalement, ce momentum ici au Québec sur les politiques qui sont en place, faire les liens aussi avec les enjeux internationaux. C'est ça notre rôle, notre mandat au Réseau québécois sur l'intégration continentale. Et, le 20 avril, c'était fantastique. Le premier ministre Couillard sera reçu par le Conseil du patronat du Québec, donc le milieu des affaires, au centre Sheraton à Montréal, ici, sur Boulevard René-Lévesque. On invite tous les citoyens d'ailleurs de se joindre à nous, qui va nous donc exposer sa vision au milieu des affaires québécois de comment créer la richesse et de la prospérité. Nous, ce qu'on dit, et on se mobilisera, on amènera un symbole important, un grand cheval de Troie de 5 mètres de haut en bois devant le Sheraton lundi pour exprimer clairement que pour nous, la combinaison entre libre-échange et politique d'austérité, c'est vraiment pas la voie à suivre pour créer de la prospérité. On pense que vraiment il faut repenser le modèle, surtout pas créer de la richesse essentiellement pour le 1%, pour les minorités, et encore moins pour les multinationales. Il faut vraiment repenser un peu le modèle économique. Et pour ça, ça demande aussi une démocratie. Hein? On a un déficit démocratique important à plein de niveaux, et en particulier sur les questions de libre-échange. Nous, on exige aussi un débat public, et on verrait d'un très mauvais œil que le gouvernement Couillard essaie de bâillonner ou de catapulter une ratification de l'accord avec l'Europe, parce que c'est celui qui est le plus près d'être ratifié. Mm-hmm. Avant même que j'étienne un débat public, il y a des enjeux importants en termes de développement local, en termes d'accès aux services, de privatisation, et on pense qu'on ne peut pas aller de l'avant, là, en plus, sans expliquer, ne serait-ce qu'un représentant élu ou député, les pour et les contre de ces accords-là, les impacts anticipés. Donc, on croit qu'un débat public doit se tenir. Donc, c'était l'occasion idéale pour nous le 20 avril, lors de cette conférence sur la richesse et la prospérité, de nous mobiliser, d'envoyer un message clair au gouvernement Couillard et au premier ministre.
D'accord. Merci beaucoup pour cette entrevue.
Ben, ça m'a fait plaisir.